Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est vrai que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Seigneur, en cet instant, nous voulons laisser ta parole sonder nos cœurs et agir puissamment, profondément, afin que nous puissions être transformés et renouvelés dans nos pensées pour te servir, Père. Te prions au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas là, et même pour ceux qui étaient là, je rappelle qu'on est en train de regarder plusieurs paraboles. Vous savez que les paraboles, c'est une illustration au quotidien, enfin des choses au quotidien. Jésus prenait beaucoup de paraboles en illustrant des choses spirituelles à partir du quotidien. Donc, alors sur le site internet, il y a normalement les prédications qui sont correspondantes à ça. Donc, on a vu la parabole de la fusée, hein, comme j'ai travaillé dans ce domaine toute ma vie, donc je connais bien. Donc la fusée, Romains 6, 7 et 8, 678, qui illustre le chrétien utile. Pour devenir un chrétien utile, eh bien cette parabole illustre très bien comment on peut devenir utile pour le Seigneur. La deuxième analogie, c'est la croissance que Jésus prend dans Matthieu 6, 28, où il dit, pour croître spirituellement, ben regardez ce qui se passe pour le lys des champs. Alors le lys, ça peut être aussi une autre plante, hein, mais le lys, c'est le symbole de la royauté, qui a été pris d'ailleurs par la royauté française, hein, le lys. Mais il a dit, regardez comment croissent les lys des champs. Et le mot regarder en grec, c'est, alors je ne sais plus le grec, ce mot-là, enfin, je l'ai dans mes notes, vous pardonnerez de ne pas l'utiliser, c'est observer soigneusement, c'est-à-dire scruter. C'est pas simplement voyez, regardez comme ça. C'est observer avec beaucoup, beaucoup d'attention. Donc en fait, si nous regardons attentivement comment croissent les lys, comment grandissent les lys, nous pouvons comprendre comment nous sommes appelés à grandir spirituellement. Et donc c'est une parabole que Jésus utilise et l'objectif c'est devenir un chrétien mûr. La troisième parabole que je voudrais aborder, mais qui prendra plusieurs séances, je ne sais pas combien, c'est plutôt un modèle analogique pour connaître Dieu et pour devenir un chrétien équilibré. Chrétien équilibré ou chrétien créatif. Alors, la base de cette parabole, c'est Philippiens 3:10, enfin qui illustre cette parabole, Philippiens 3:10. Est-ce que quelqu'un veut le lire en se levant à haute voix pour nous le lire? Ça permet de faire participer tout le monde. Si quelqu'un trouve Philippiens 3:10 en premier, il n'est pas timide, il se lève. Regardez pas autour de vous, simplement faites-le. Voilà. Merci. Vas-y. Alors, comme j'ai pas entendu le début du verset, relis le début. Oui, il n'y a pas un autre début, non? Oui, mais ta Bible est bizarre. Parce que c'est pas la même que la mienne. Ah, voilà, c'est ça. Alors, oui, moi aussi j'ai eu le second. Mais il faut lire le précédent, alors. Ouais, c'est bizarre, cette version-là. Bon, alors, on va lire un petit peu avant. Non, mais c'est bizarre parce qu'il y a des mots qui manquent là dans sa Bible. Pardon? Alors attendez, on va faire un test là. Je crois qu'il y a des Bibles qui sont falsifiées là. mon but est de le connaître. Est-ce qu'il y en a qui ont ça? Oui? Quels sont ceux qui ne l'ont pas? Mon but est de le connaître. Il y en a qui l'ont pas? Alors là, c'est un scoop, hein. Oui? Ah si, je connaîtrai. Bon, c'est dit un peu différemment. Oula, j'ai failli avoir une attaque cardiaque là. Bon, c'est vrai que là c'est la seconde, mais Colombe. La seconde révisée colombe, enfin la colombe, c'est la version seconde. Vous savez que Louis Segond, c'est un théologien français qui a traduit la Bible avec beaucoup de précision. C'est pour ça que on se réfère beaucoup à la Bible Segond, parce qu'elle est bien, bien traduite, enfin bon français. Mais c'est au siècle dernier, hein. Donc il y a des mots qui ont changé un peu. Donc la version colombe, c'est la Bible Segond, mais où les mots sont un peu tourner à la manière moderne, voilà. Et la manière moderne de la colombe, c'est mon but est de le connaître. Je trouve que c'est beaucoup plus précis, comme on va directement au but, hein. Mais bon, c'est vrai que vous l'avez aussi, mais de manière un peu plus. Comme quoi, c'est bien d'avoir plusieurs versions, parce que parfois une version attire plus le sens de certaines choses. Voilà. Donc mon but est de le connaître. Moi, j'aime bien ça parce que ça commence tout de suite le verset 10. Mon but est de le connaître. Ça, c'est le but de Paul. Mais ça devrait être le but de chacun des chrétiens. Alors, mon but est de le connaître. Il y en a qui veulent connaître Dieu, qui veulent connaître Christ. Eh bien, voilà, vous êtes dans ce but et cette parabole est censée répondre à cet objectif. Mon but est de le connaître. Connaître Dieu. Amen. Connaître Christ. Est-ce qu'il y en a ici qui le connaissent parfaitement, Dieu? Donc on est tous en chemin. OK? Bon, donc on est tous dans le même bateau. OK, voilà. Donc ça nous concerne tous. Amen. La parole de Dieu nous concerne tous. Mon but est de le connaître. Mon but est de le connaître. Et le grand Paul, Paul qui nous a laissé toutes ses épîtres, qui nous a laissé toutes ses interprétations bibliques, lui, son but est de le connaître. Vous voyez, alors si le but de Paul était ça, à combien plus forte raison ça devrait être le nôtre. Alors, pour cela, je vais utiliser une analogie. Alors, je vais peut-être faire mieux la prochaine fois, mais vous savez, il faut un peu de temps pour ça. Je voulais apporter un prisme, mais j'en ai pas ici. Donc, je vais le dessiner. C'est la parabole du prisme. Alors, le prisme, c'est une pyramide, un peu comme, oh, vous imaginez les pyramides d'Égypte. OK? À la prochaine fois, je demanderai à Claire d'en amener un prisme. Et je ne dis pas que je ferai une expérience qui marche, mais c'est Claire qui va nous la faire, elle est opticienne. Mais si je mettais un prisme ici, alors il faut une concentration particulière, donc il faut une loupe, etc. Sous le soleil, je le mets là, qu'est-ce que j'obtiendrai à la sortie du prisme? Et où là j'ai un prisme, ici j'ai le soleil, donc une lumière blanche, j'éclaire là-dessus. Qu'est-ce que j'obtiens ici, à la sortie du prisme? Pardon? Qu'est-ce que j'obtiens? Pardon? Des couleurs. Et quelles couleurs? L'arc-en-ciel. Ok? J'obtiens l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il se forme comme ça. Hein? C'est un prisme un peu particulier, mais c'est un prisme. Hein? Quand la lumière blanche marche sur un prisme, j'ai une vidéo, mais c'est pareil, les vidéos aujourd'hui, un peu du mal à les faire marcher. Je montrerai la vidéo. Vous obtenez à la sortie l'arc-en-ciel. Est-ce que la lumière qui sort de ce côté-là, est-ce qu'elle est différente de celle qui rentre? Hello? La même lumière. Simplement, ces manifestations sont différentes. Donc, c'est la même lumière ici, lumière blanche, et ici, elle est colorée. Et ça commence par quelle couleur? Rouge. Ça s'appelle même l'infrarouge. D'accord? Et ça se termine par ultraviolet. C'est bon pour l'été, ceux qui veulent aller sur la plage. Ok? On va bronzer. Ultraviolet. D'accord? Et ça passe par quelle couleur, ceux qui sont un peu opticiens? Pardon? Rouge? Jaune? Vert? Après? Bleu? Indigo, etc. Alors, une petite question, pour ceux qui sont clever, enfin clever au sens un peu intuitif, est-ce que quelque part vous voyez ici les couleurs de ça? Est-ce qu'ici, dans la salle, vous voyez ces couleurs-là? Oui, où ça? Où ça? C'est que vous les voyez? Non, non. Je suis comme tout à l'heure la verset simple. Ah, Solange, elle a vu. Regardez un peu vers le ciel, de temps en temps, dans la salle. Ici, là, les couleurs. Rouge, bleu, jaune, violet. Hello? Ça vous dit quelque chose, ça? C'est quoi, ça? C'est quoi ces symboles, là-haut? Four Square. OK. Sœur Aimée, qui est notre fondatrice, voilà, fondatrice de Four Square, elle appelait ça la spectroscopie. Scopie, ça veut dire observer. Et spectre, ça veut dire l'ensemble du spectre, l'ensemble de l'étendue, alors, de la lumière de Christ. Ça, c'est l'ensemble de l'étendue de la lumière de Christ qui se manifeste dans ses ministères. Les quatre ministères de Christ. Hello? Oui, on est dans la spectroscopie. On est dans les manifestations de Christ. Christ s'est manifesté d'une certaine manière au niveau de ses ministères et c'est représenté par les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est pas du tout innocent ce que je vous dis, c'est que c'est une parabole, hein, et qui va nous aider à mieux comprendre comment devenir un chrétien équilibré et créatif. Donc, ici, on a la même lumière que là, sauf qu'ici, on a des manifestations de la lumière différentes. Et qu'est-ce que cette parabole pourrait nous aider à comprendre entre de ce côté-là du prisme et de ce côté-là du prisme? Qu'est-ce que cette parabole peut nous dire? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Si vous comprenez un peu l'histoire de la parabole, de cette lumière, comment vous définiriez ce côté-là et ce côté-là? C'est important de comprendre ça. À gauche, le... Et à droite, le royaume. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Jean-Claude? Non? Annie n'est pas d'accord. Oui? Oui? La source? La source, oui. Bien. Je dirais pas c'est très bien, mais c'est bien. Donc on se rapproche. Non, c'est bien. C'est bien, oui, non, mais ça, c'est vrai. Pardon? Oui, non, mais en plus c'est vrai, c'est bien, parce que c'est la source et l'opération. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin pour bien comprendre? Il faut bien comprendre cette parabole, parce qu'elle va vous donner des clés dans votre vie. À gauche, à droite. Oh, c'est bien, c'est le symbolisme là, c'est bien. Alors, j'irai pas jusque là. Je resterai beaucoup plus simple. Ici, à gauche, on a la lumière pure, la lumière source, c'est vrai, la lumière de Dieu. Amen. Enfin, Dieu peut l'identifier à beaucoup de choses. Hein. Bon, la lumière, c'est une des images de Dieu. Ce côté-là, est-ce que vous pouvez imaginer un peu ce que c'est ce côté-là? Déjà, les deux côtés sont séparés. Hein. Il y a le prisme qui les sépare. Hein. Sinon, on n'aurait pas les manifestations. Okay. Eh bien, je vous propose la compréhension suivante. Ici, on est dans tout ce qui est incréé. Alors là, je vous renvoie C.S. Lewis, hein, qui utilise beaucoup ces mots-là, qui a écrit Narnia, etc. C'est un des plus grands théologiens du XXe siècle. L'incréé. Bon, il y a Ian Penn qui l'utilise beaucoup aussi, qui est disciple de C.S. Lewis. L'incréé. Ça veut dire que c'est pas de la création. Dieu n'est pas créé. Est-ce que Dieu a été créé par quelqu'un? Il est source, effectivement, c'est pour ça que la source est très très bonne définition. Il est source de toute chose. Amen. Il est celui qui est. Quand Moïse lui a demandé son nom, il a dit, tu diras à mon peuple, je suis celui qui suis. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il est Dieu. Okay, et celui qu'on adore. Amen. Donc, il est incréé. Bon, c'est une façon de présenter ça, mais source c'est bien aussi. Incréé. Et ici, on est où? On est dans le créé. Amen. On est dans la création, voyez-vous, dans les opérations, si vous voulez, c'est vrai. Mais le créer, ça englobe un peu plus de choses. On peut aller plus loin avec ce mot-là. Donc ici, on est dans l'incréé. Ça pourrait, mais bon, on ne va pas trop symboliser là. On va rester dans une parabole très simple, ou pas compliquée. C'est vrai qu'on peut aller très loin, mais restons simples. Je vais juste vous faire comprendre que d'un côté, on est dans l'incréé, et de l'autre côté, le créé. Prenez Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a appelé Moïse à libérer son peuple. Ok. Moïse, il a rencontré Dieu à quel endroit? Buisson ardent. C'était où? Mont Sinaï. Il a rencontré Dieu, il était berger, hein, enfin, il en avait. Il avait vécu des choses assez difficiles, et pendant 40 ans, il est resté berger. Et un jour, vous savez, parfois Dieu, un jour, il agit dans nos vies. Un jour, il rencontre Dieu, lui apparaît, dans le buisson qui ne s'éteint pas, buisson ardent, manifestation du feu de Dieu, du feu de l'Esprit. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si vous connaissez vos Bibles là. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Pardon? Voilà, Laurence, ôte tes sandales. La première chose qu'il demande, c'est ôte tes sandales. Pourquoi? C'est quoi le symbole des sandales à cette époque-là? Le lieu est saint. Et oui, ça c'est le côté saint, sainteté. On ne mélange pas la sainteté avec le profane. Il y a une frontière. Il y a une frontière. C'est pour ça que Jésus a dû venir mourir à la croix. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Effectivement, à gauche, c'est le royaume de Dieu, Jean-Claude. Et à droite, c'est le royaume du monde, si vous voulez. Mais on ne rentre pas dans la présence de Dieu sans la sainteté. C'est pour ça que Dieu a montré le tabernacle à Moïse. Il a dit, tu feras un tabernacle. Et c'était le modèle du tabernacle qui est dans le ciel. Et dans le tabernacle, il y a un souverain sacrificateur qui assure la liaison entre le monde créé, le monde profane, et le monde de la sainteté de Dieu. Et ce souverain sacrificateur, qui a été établi dans l'ancien temple, il existe toujours. Et c'est qui le souverain sacrificateur aujourd'hui, Elsa? C'est Jésus. Hello? Jésus, le souverain sacrificateur. Lisez Hébreux. Tout le livre des Hébreux nous parle de Jésus comme souverain sacrificateur. Il l'est pour l'éternité. Parce que nous ne pouvons pas, nous, entrer dans la présence de Dieu, même quand nous serons transformés, sans un souverain sacrificateur. Allô? J'entends Amen. Nous restons des êtres créés. Ok? Et Dieu est un être incréé. On ne peut pas mélanger, comme on dit, les torchons et les serviettes. Non. Le problème, c'est que l'homme, il le fait, au travers de la religion. Je vais vous le démontrer. Ici, Moïse, quand il rencontre Dieu, Dieu dit « ôte tes sandales, parce que tu es sur un lieu saint ». Ici, tu ne peux pas rester sans mourir si je ne te fais pas la grâce de rester en vie. Et tous ceux qui rencontrent Dieu, ils crient grâce que ça s'arrête. Quand ils rencontrent la lumière de Dieu, parce que il y a une telle puissance de Dieu que ça vous déchire les ligaments intérieurs de vos os et de vos ligaments, tellement la puissance de Dieu est grande. Donc on ne peut pas rencontrer Dieu comme ça. Alors, tout le monde veut rencontrer Dieu, mais attention, il y a un prix à payer. Moïse, il a payé 40 ans. Il a été dans le désert pour apprendre le chemin de Dieu. Qu'on ne mélange pas la sainteté et le profane. Alors, quand Dieu a détruit le monde par le déluge, vous vous rappelez l'histoire du déluge? Quelle est la famille qui était sauvée? Et quel est le patriarche qui a eu la vie sauve? C'est Noé. Noé, c'est un personnage clé dans la Bible, parce que c'est une refondation de l'humanité. Dieu avait décidé de détruire l'humanité, tellement il était corrompu, il était mélangé avec les choses, la profanation avec les choses spirituelles. Et la Bible nous présente Noé comme quelqu'un qui a refondé l'humanité. Noé avait combien de fils? Pardon? Trois. Quels sont leurs noms? Voilà, donc trois fils qui s'appelaient Sem, Cham et Japhet. Qu'est-ce qui s'est passé selon le récit biblique après le déluge? Florence, tu peux nous le raconter? Non? À l'époque, déjà, il y avait la vigne, hein, ce n'était pas la France, mais... Non, pas tout à fait ce qu'il y a eu, mais à 50%, c'est bien. Alors déjà, lequel... Alors, tous les trois l'ont vu, nu. Hein. Il était nu, il avait bu du vin, il était ivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui. Ouais. Tiens, venez tous les quatre là, on va le simuler. Faire un sketch, oh, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Un autre gars. Allez hop, un autre gars. Qu'est-ce qu'il veut faire Noé là parmi vous? Qu'est-ce qu'il veut faire Noé? Toi? Allez hop, Noé. Bon, c'est Noé là. Allez hop, tu bois un peu, faut tu fais un peu. Voilà. Voilà, c'est Noé. Tu bois un petit peu? Voilà. Ok, alors on va pas lui demander de se déshabiller. Hein. Mais il est nu et il est couché. Il est couché dans sa tente. Voilà. Et qu'est-ce que les frères ont fait? Alors lui, c'est Sem, Cham et Japhet. Un peu au hasard. Hein. Sem, Cham et Japhet. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez? Non? Ou je vous conduise? Ouais. On ne sait pas très bien. D'après la Bible, on ne sait pas très bien les âges. Enfin, mais alors, c'est Sem, Cham et Japhet, c'est ça? Voilà. Alors, qui a fait quoi? Non, attendez, là, ils improvisent. Sinon, vous allez mal reculer l'histoire. Je vais vous conduire parce que sinon, on va être dans la confusion. Lui, c'est Cham. Sem, Cham. Cham. Cham, mettons le deuxième, mais on n'est pas sûr d'après la Bible, c'est le deuxième. Cham, lui, rentre dans la tente, ok, et il se moque. Moque-toi de lui. Voilà, moque-toi de lui. Non, mais vas-y, n'hésite pas, tu sais, allez, tu te moques de lui. Sem, lui, c'était l'aîné, ça c'est sûr, et avec Japhet, ils étaient scandalisés de l'attitude de leur frère. Ils ont pris, là, on n'a pas un drap, et vous rentrez. Alors vous rentrez? Non, pas comme ça. Pas comme ça. À reculons. La Bible dit, à reculons, sans regarder. Continue, ok. Et vous tirez le drap sur lui. Vous tirez le drap sur lui. Non, sans regarder. Ah oui, d'accord. Oh, c'est pas grave. Voilà. Voilà ce que dit la Bible. Relisez Genèse 6. Voilà. Donc deux attitudes totalement différentes. Japhet, Cam, qui se moque de son père, de sa nudité, de son ivresse. Sem, qui prend l'initiative, qui entraîne son frère à couvrir leur père. Qu'est-ce qui se passe après, le lendemain, quand il est sorti d'ivresse, Noé, il se lève. Hein? Non, c'est fini. C'est passé. Par contre, il apprend ce qui s'est passé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est la fondation de l'humanité. La refondation de l'humanité, c'est très important. La Bible ne dit pas des choses pour ne rien dire. Hein. Elle nous instruit. Donc, qu'est-ce que dit Noé à la... Non, pas tout à fait ça. De toute façon, vous le retrouvez. Ce que dit Noé, vous le retrouvez dans les patriarches par la suite aussi. Le Père a une autorité très importante, comme le Père céleste. Et le Père... Il dit quelque chose, à mon avis, il ne le dit pas naturellement, il le dit prophétiquement. C'est de la prophétie, là. On est dans une déclaration prophétique. Le Père, il bénit Sem. Tu le bénis. Voilà. Il bénit Sem de ce qu'il a fait. Vous voyez, prophétiquement, pas simplement parce qu'il a découvert sa nudité, mais parce qu'il a découvert la sainteté qui est attachée à la protection de la nudité, la sainteté. Okay. Et il a reconnu que Sem avait bien agi. Okay. Ensuite, après, il se dirige vers, je ne sais plus dans la Bible si c'est Cham ou Japhet, admettons Cham. Excuse-moi. Tu te diriges vers Cham, et là, tu le maudis. Eh oui, non, mais non, vas-y. Non, mais pose ta main, c'est comme ça que ça se passait. Hein. Ils étaient très manuels. Hein. Voilà. Et il le maudit. Alors pas lui, mais qui? Sa descendance. C'est Canaan, deuxième fils. Donc Canaan est sous la malédiction. Oui, c'est important. Bénédiction, malédiction. Ça, c'est tout un thème biblique. Il est maudit. Okay. Et ensuite, après, il se tourne vers Japhet. Et qu'est-ce que lui dit Japhet? Il a dit, alors tu te tournes là, tu seras sous la tente de Sem. C'est-à-dire qu'il n'a pas complètement son autonomie, il n'est pas maudit, il n'est pas béni, il est entre les deux. C'est-à-dire qu'il sera l'esclave de son frère. Il sera sous l'autorité de son frère quelque part. Voilà. Alors, pour faire un peu plus vite, là c'était juste les versets qui parlent de cette histoire de Noé, oui? Ah ça, je ne sais pas. Là, je peux pas le dire. Ah, bah, non, c'est à cause de ses actes qu'il a maudit. Parce qu'il a mal agi. Il n'a pas respecté la sainteté qui était liée à sa filialité, quoi, qui devait protéger le Père d'être exposé. Oui, alors là, je ne suis pas dans le sein des saints. Je ne peux pas vous dire. Pourquoi Japhet n'a pas béni?
Je pense que parce qu'il ne l'a pas fait de lui-même de cacher son père. Il a dû écouter le conseil de son frère.
Ouais. C'est une possibilité, tout à fait. Mais bon, on ne va pas rester là-dessus. Ça, c'est un peu de la spéculation. Ce qui est important, c'est ce qui s'est fait. Vous voyez, la Bible s'attache au fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est ça. Ça s'est passé comme ça. Je vous remercie. Vous pouvez retourner vos places. Donc ici. Bénédiction, malédiction, surtout sur Canaan, ou couche, les couchites, et ici c'est sous les tentes esclaves de Sem. Ensuite, il y a quelque chose d'important dans la fondation de l'humanité. Noé leur attribue des districts à ses fils, des districts. Des districts, à l'époque, le monde, c'était le monde méditerranéen. Le monde, quand on parlait du monde, c'était la Méditerranée. Okay, c'était pas l'Afrique ni l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, c'était le monde méditerranéen. Et dans ce monde-là, ils ont reçu des endroits particuliers. Sem, il a été placé où? Votre avis? Non, ça vous dit rien? Bon, Sem, il a reçu. Alors, je vais peut-être dessiner une carte si j'y arrive. Voilà. Ici, c'est Israël. Vous voyez ce que. Là ici, c'est l'Iran. L'Iran, c'est par là. Ah non, là où était Saddam Hussein, c'est quoi? Irak. Et Iran, c'est là, voilà. Voilà. Bon, excusez-moi ma géographie, laissez désirer ce matin. Sem a été placé en Mésopotamie, c'était l'Iran-l'Irak. Okay, en gros, c'est là. C'est là qu'il était, Sem. D'accord. Cam a été placé où? Bon, vous avez. C'est facile, hein. C'est à Canaan. Et puis l'Égypte. Okay. Et Japhet, qu'est-ce qui est marqué dans la Bible? Il a reçu le partage des îles. C'est la Grèce. Enfin, tout ce qui est Grèce, Crète, etc. Et oui, c'est très précis, la Bible. Elle nous donne beaucoup d'informations. Les civilisations qui en sont sorties, ben, vous avez ici les Sémites, les Couchites, et les Grecs par la suite, qui ont conquéri par Alexandre le Grand, l'ensemble du monde de l'époque, le monde helléniste, on appelle ça aussi le monde helléniste. Sem, celui qui a entendu la voix, c'était Abraham, d'origine sémite. Parce que les Sémites, comme d'ailleurs après, avant Adam, mais je ne vais pas remonter à là. Adam, il y avait aussi la même chose avec Caïn, et puis Abel, et puis Seth qui est remplacé. La bénédiction amène les personnes à rechercher Dieu pour ce qu'il est, pour sa sainteté. Pas pour une religion, pour une relation personnelle. Abraham avait une relation personnelle avec Dieu, parce qu'il y avait une bénédiction sur sa vie qui remontait à ses ancêtres. Et il a entendu la voix de Dieu. Ça ne veut pas dire que les autres sont maudits à jamais. Que ce soit le Japhet ou Canaan, ils peuvent tous se tourner vers le Seigneur. Mais il y a un obstacle à franchir. La malédiction ancestrale. Et Sem, donc, donnait lieu aux Sémites. Abraham, Isaac, Jacob, patriarche, etc. Et d'ailleurs, Abraham a demandé à ce que son fils se marie à une Sémite pour ne pas se marier avec une Cananaïte dans laquelle il se trouvait. Bénédiction sur les Sémites, naturelle. Mais il y a aussi une déformation après. Donc, ici, une relation personnelle avec Dieu qui est possible. Relation personnelle. Abraham, Isaac, Jacob, etc. Okay? Et donc les Juifs, Israël, parce que Jacob a été nommé Israël, il a lutté avec Dieu, il a été vainqueur. Cham, donné naissance au Canaan, et à l'Égypte, ils ont voulu contourner la malédiction. Le problème, c'est que quand on est maudit, on a deux possibilités. Ou on cherche la bénédiction de Dieu en sortant de la malédiction, ou on cherche à s'en sortir tout seul. C'est toujours pareil. Et qu'est-ce que les Cananéites ont fait, ou les Égyptiens, ils ont cherché à maîtriser les forces spirituelles. D'accord? Par la magie. L'Égypte, par exemple, était connue pour avoir les secrets les plus importants des magiciens. À la frontière, en Égypte, tout le monde était fouillé du haut en bas. Ils ne pouvaient pas traverser la frontière. Pourquoi? Ils ne pouvaient pas sortir de l'Égypte. Parce que les Égyptiens avaient peur qu'ils amènent un secret de la magie avec eux. Que ce soit un papier, une formule, un talisman, etc. Et eux, ils étaient tellement préoccupés de leur connaissance qu'ils protégeaient leur secret, le secret de la magie. Parce que la magie veut contrôler les forces spirituelles. Parce que on ne va pas à Dieu pour demander à Dieu de nous protéger, on va directement se puiser dans ses forces. Parce qu'on est sous cette malédiction, mais on peut en sortir. Hein. Jésus est venu. Et Japhet, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Japhet. Alors ce que je vous raconte là, c'est tout ce qui est dans la Bible, hein, en particulier le Nouveau Testament. Japhet, il a fait autre chose. Alors, si on revient à notre prisme, là, voilà, prisme. Parce que j'ai oublié de vous dire une chose que vous savez très bien. Dans le monde créé, qu'est-ce que Dieu a créé? Il a créé le monde physique. D'accord? La lune, les étoiles, le soleil, tout ce qui est physique, les lois physiques viennent de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il a créé deuxièmement, Samuel? Pardon? Le monde spirituel, c'est-à-dire les anges, qui sont des créations, et le monde des hommes, entre autres. Enfin, au monde animal, si vous voulez, hein, dont les hommes qui sont la tête du monde animal. Okay? Pour simplifier, trois mondes, okay? Différents. Ce sont des créations, créatures. Ici, dans ce côté-là, on est dans la chute. Hein? On est dans la chute. Okay? Ici, on est dans la sainteté. On est dans la chute. Donc ici, on a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Que ce soit le monde physique, le monde spirituel ou le monde humain. Tout le monde a des problèmes. Et la Bible dit, dans le Nouveau Testament, que le monde entier soupire après la délivrance. La délivrance que Dieu va accorder en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il regarde à nous, chrétiens. Parce que nous portons la délivrance en nous, au travers de Jésus. Et si nous faillissons, eh bien, le monde entier, y compris les créatures et tout ça, sont tendus vers cette délivrance. Nous avons une destinée extraordinaire. Ne nous rendons pas compte en tant que chrétiens quelle destinée nous avons. C'est absolument phénoménal. Pour revenir à ça, c'est qu'ici, on est en danger. Danger de mort tout le temps, maladie, difficultés financières, difficultés de tous ordres, difficultés naturelles, tremblements de terre ou autres, etc. Tout le temps, tout le temps. Donc, qu'est-ce que l'homme cherche à faire? Il cherche à se protéger. Alors? Non? Vous ne cherchez pas à vous protéger, vous? Vous jetez dans le précipice? Non, vous avez de l'instinct de survie. Donc, l'homme cherche à se protéger. Mais il n'a que quelques solutions pour se protéger. Ou alors, il se protège tout seul, ou il demande à Dieu de le protéger. Donc, vous voyez, Sem, Jam et Japhet, ce sont trois types de personnes hein, qui nous sont présentées. Ou, ici, quand on est là, alors là, on va placer un être humain. Hein, ici, quand on est là, on n'a que trois solutions. On a la solution de demander à Dieu d'intervenir, de nous protéger. Ça, c'est Sem. C'est ce qui est destiné à Sem, d'être sous la bénédiction de Dieu. Vous voulez cette bénédiction? Adressez-vous à Dieu personnellement. Personne. La deuxième possibilité, c'est de demander à une autorité supérieure de vous protéger. Quelle est l'autorité supérieure à l'homme dans la création pour le protéger? Alors, ce sont les anges. Ah oui. Les anges, ils ont des pouvoirs surnaturels. Donc, en s'adressant aux anges, ça s'échame. L'échame fait de la magie. On apprend des formules de magie, et hop, ça marche. Par contre, derrière, on ne peut plus s'adresser à Dieu. Il y a un voile qui tombe. C'est Cham. Et Japhet, alors lui, il est entre les deux. Qu'est-ce qu'il cherche, lui? C'est plus subtil. Et ça, c'est l'esprit français. Parce qu'on a hérité des Grecs. Lui, il cherche à inventer Dieu. Donc ça s'appelle la métaphysique. Intelligence. La Bible dit, Paul qui le dit à 1 Corinthiens 1, il cherche la sagesse. C'est ça la sagesse. Sagesse grecque, c'est la spéculation sur Dieu. Et on invente. La connaissance de Dieu est une connaissance intellectuelle, une connaissance spéculative, une connaissance qui n'est pas la réalité de la connaissance relationnelle, mais la connaissance de sagesse. Donc vous voyez, nous avons trois possibilités, laquelle nous choisissons. Alors il y a une quatrième qui est apparue un peu plus tard, c'est les Juifs. Parce qu'il y a des Juifs qui sont circoncis, qui sont circoncis de cœur, qui ont une relation personnelle avec Dieu, et les Juifs qui ne sont pas circoncis de cœur. Qu'est-ce qu'ils cherchent, ces Juifs-là? Et ça, c'est les Juifs au temps de Jésus, entre autres, les souverains sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens. Non, mais la Bible, je reste sur la Bible, qui dit qu'ils cherchent les miracles. Les Juifs cherchent les miracles, et les Grecs, ici, cherchent la sagesse. Bon, il se trouve qu'ils ne parlent pas de cela, parce que bon, ils cherchent la magie. Ce n'est pas tout à fait le développement de Paul à ce moment-là. On le retrouve dans d'autres passages. Donc là, il parle de deux types de personnages, deux types d'humanité. L'un cherche la sagesse, donc inventer Dieu. Dieu, il est ceci, il est cela, etc. On l'invente, parce qu'on a besoin d'une connaissance supérieure, ça s'appelle la raison. Ou alors les miracles. Pourquoi les miracles? Parce que, voyez-vous, le peuple d'Israël, le peuple, je parle, il y a une différence entre le peuple et les personnes qui constituent le peuple. Ne soyez pas le peuple moutonnier, soyez une personne dans le peuple qui constitue le peuple de Dieu, qui a une relation personnelle avec Dieu. Le peuple, il était fasciné par les miracles parce que Dieu les a sauvés par des miracles. Rappelez-vous, la fondation du peuple d'Israël, c'est la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, elle marque toute la judaïté. Sortie d'Égypte, tout est basé là-dessus au niveau des Juifs. Okay, et là, ils ont vu des miracles puissants. Ils ont vu les magiciens, ils ont vu justement toute l'Égypte qui est basée sur la magie, qui étaient en face d'eux, en face de Moïse. Et Moïse a dû leur résister, a dû résister à ces magiciens les plus haut placés à côté du Pharaon. Et à un moment donné, leur pouvoir s'est arrêté. Ils ont du pouvoir. À un moment donné, ça s'est arrêté. Au bout de je ne sais pas laquelle plaie, ils n'ont pas pu continuer. Et là, Dieu a continué à faire des miracles, des miracles, des miracles. Les Juifs, ils ont vu des miracles. Donc pour eux, c'était le Dieu des miracles. Voyez-vous, le peuple, il s'attache aux choses qu'il voit. Mais si leur cœur n'était pas touché, ils ne s'attachaient pas à Dieu lui-même. Ils s'attachaient à la manifestation de Dieu. Amen. Au lieu de chercher de ce côté-là, comme Moïse cherchait la sainteté de Dieu, ils ont cherché ici les manifestations de Dieu, les miracles. Et très souvent, dans les églises que nous formons, il y a des gens qui sont guéris, qui voient des miracles, mais qui restent sur les miracles, donc ils cherchent des miracles. Et ça, ce n'est pas la bonne fondation. La foi est basée sur la foi en Dieu, l'incréé, pas les miracles de Dieu. Le Dieu des miracles, pas les miracles de Dieu. Allô ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc l'apôtre Paul, il développe cela dans 1 Corinthiens. Il commence premier chapitre des Corinthiens, paf, il annonce la couleur, là. Il dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ. Crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, etc., la faiblesse de Dieu. Et ensuite, après verset 30, il dit, or c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, qui de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Notre seule gloire doit être dans le Seigneur. Notre seule fierté doit être dans le Seigneur, dans la relation personnelle avec Dieu. Pas dans les miracles que Dieu fait pour nous, mais dans le Dieu des miracles. Pas dans le Dieu que nous nous inventons par notre sagesse, comme cette lignée-là, mais dans celui qui est la sagesse, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Et bien sûr, surtout pas dans la magie, parce que nous sommes sous la malédiction et nous restons sous la malédiction. C'est pour ça que tous ceux qui touchent à des choses de magie, peu importe, que ça commence par les lignes de la main ou tout le reste, eh bien, sortez-vous de là et demandez pardon, parce que vous ne pouvez jamais avoir la pleine bénédiction de Dieu. Amen. Voilà. Donc, voyez, ce prisme est très important parce qu'il définit une frontière entre le créé et l'incréé, entre le profane et le sacré, et la sainteté de Dieu. Amen. Ne cherchons pas, par la métaphysique, comme les Grecs, comme les Français qui spéculent sur Dieu, mais cherchons Dieu lui-même. Amen. Et là, il y a un prix à payer, c'est Jésus. Amen. Pour simplifier, alors ça c'est un quelque chose de complexe, mais je vais m'arrêter là-dessus. Ce sera un peu le déroulement des messages suivants pour bien que vous soyez fondés sur la connaissance de Dieu tel qu'il est, pas tel que nous nous le représentons, tel que nous le voyons se manifester, mais tel qu'il est. Dieu a dit à Moïse, « Je suis celui qui suis, l'Éternel, celui qui est le tout autre, comme dit C.S. Lewis, le tout autre. » Il n'est pas comparé à quelque chose qu'on connaît déjà. Non, on ne peut le comparer à personne. Il est tout autre. Et nous devons le rencontrer, celui-là. Amen. Et c'est celui-là que nous rencontrerons beaucoup plus parfaitement que nous serons avec lui dans sa présence. Amen. C'est notre espérance. C'est l'espérance de chaque chrétien, de le rencontrer tel qu'il est. Amen. Quand nous serons débarrassés de toute chose. Donc, ce que je voudrais, c'est vous montrer la chose suivante, c'est qu'un chrétien équilibré et créatif, eh bien, s'attache au Dieu qui est comme la lumière, hein, c'est comme au sens d'analogie de cette image, il n'est pas que lumière, il est aussi vérité, il est sainteté, justice, il est tout ça. Okay. Mais la lumière présente bien un aspect, c'est que là il y a un prisme qui est trinitaire. Et c'est ça que. Alors le mot trinité ne se trouve pas dans la Bible, mais la manifestation de Dieu, ici, de ce côté-là, se manifeste par la Trinité du Père, du Fils et de l'Esprit. Okay. Mais ça, c'est déjà une notion d'intimité. Un chrétien qui rentre dans cette intimité, il commence déjà à être équilibré. Mais très souvent, il y a des personnes qui ne peuvent pas connaître Dieu comme Père, pour différentes raisons, et il faut de la guérison. Mais il y a plus éloigné le Créateur. Rencontrer Dieu comme Créateur. Et ça, c'est très important, de rencontrer Dieu comme Créateur. Et ça, tout le monde peut le rencontrer. Il n'y a pas que les chrétiens. Les bouddhistes, les agnostiques, tout ça, ils sont en face de la réalité de Dieu. Et Paul le dit dans Romains chapitre 1er. Donc le Créateur, c'est une manifestation de ce Dieu qui a cette capacité de créer, alors qu'il est incréé. Le Fils, qui lui est manifesté dans les Écritures. Okay. Tout parle de lui. Amen. Quand Jésus est ressuscité et quand il a rencontré les disciples d'Emmaüs, il leur a dit tout ce qui le concernait, qui était écrit dans les Écritures. Et à la fin, ils ont dit, mais notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait en chemin? Les Écritures brûlent nos cœurs quand nous cherchons Dieu. Vous dites amen? Comment vous avez rencontré Jésus? Je ne sais pas. Moi, je l'ai rencontré dans les Écritures. Quand j'ai lu les Écritures, oh, je les ai lues toute ma jeunesse. Mais un jour, ces Écritures ont été du feu pour moi et j'ai rencontré Jésus le Fils dans les Écritures. Et ici, le Saint-Esprit, on peut le rencontrer par des expériences. Ok ? Les expériences. Les expériences, c'est bien. C'est important, les expériences. On fait tous des expériences. On ressent tous des choses. Dans l'amour, on ressent des émotions. Alors, ça vous parle ? L'expérience, c'est l'affect. C'est l'affection. Enfin, tout ce qui est les affects, tout ce qui touche nos émotions, les expériences. Et on sait que c'est Dieu. Mais ce n'est pas le seul moyen de connaître. C'est un moyen. Et Jésus a dit, je vous donnerai le Saint-Esprit et il vous remplira de feu pour que vous soyez mes témoins. La puissance. Là, c'est la puissance. Là, c'est la parole. Et là, c'est la puissance de création. C'est l'origine. C'est la source. C'est celui qui tient toutes choses en main. Donc je vais essayer de développer pour vous ces trois notions, parce que souvent, les chrétiens, et c'est le problème de l'équilibre de certaines églises, qui sont basées soit sur l'expérience, donc les charismes, et on néglige un peu le reste. Je dis un peu, parce que c'est jamais total, et ça c'est pas bon, c'est pas équilibré. Il y en a d'autres qui insistent sur les écritures, le dogmatisme, la christologie, on appelle les églises évangéliques classiques, c'est bien. Mais il faut aussi l'expérience. La preuve, c'est qu'on ne peut pas venir au Seigneur sans expérimenter son amour. Donc, il faut aussi embrasser l'expérience dans sa propre théologie. Et il y en a d'autres ici, ça peut être plutôt les libéraux, qui insistent davantage sur la création, l'universalisme, etc. Ils n'ont pas tort non plus. Simplement, rester uniquement là-dessus, c'est pas bon. Et il ne faut pas que nous, chrétiens, charismatique ou évangélique, nous rejetions cela. C'est la première source de connaissance de Dieu. Donc, ce qu'il faut, c'est que nous soyons équilibrés. Dans les trois sources de connaissance, nous puissions connaître la lumière qui est Christ et qui est Dieu qui nous donne cela. Et ça, c'est ce qui va nous aider à comprendre le modèle que je vais essayer de développer devant vous pour que nous puissions devenir des chrétiens mûrs, utiles, mais aussi équilibrés notre foi, et qui puissions montrer au monde qui est Dieu. Dieu nous a donné un motto dans l'Église, en dehors de la vision que vous connaissez maintenant, c'est amener des familles à connaître qui ? Tu ne sais pas encore, il faut que tu l'apprennes par cœur. Si ? Qui ? Non, c'est le motto, il est gravé dans le marbre. Bon, enfin, on n'a pas de marbre ici, mais... Quand vous allez à Angelus Temple, sœur Aimée, il l'a écrit dans les cornerstones, etc. La vision. Nous, la vision, c'est amener des familles à connaître. Pardon ? Non. Non. Enfin, c'est vrai, mais il y a quelque chose avant, qu'on a rajouté, effectivement. Oui, cette subtilité vous a échappé, mais je l'ai rajoutée il y a quelques années. Qui elles sont? D'abord, il faut savoir qui on est. Amener les familles à connaître qui elles sont, c'est l'identité. Si je ne sais pas qui je suis, je peux faire n'importe quoi de ma vie. Ça, c'est connaître qui je suis. Je suis une création, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas un être incréé. L'identité en Christ, ça fait partie de notre identité. Le chrétien mûr, il ne peut pas devenir mûr s'il ne connaît pas son identité. Qui elles sont? Voyez-vous? Ce n'est pas de la philosophie, là. On fait une réalité. Qui suis-je, moi? Est-ce que je suis Dieu? Est-ce que je peux parler avec Dieu comme ça, d'égal à égal? Est-ce que j'ai besoin de Christ, etc.? Vous voyez, ça nous remet à notre place. Qui nous sommes? Qui elles sont et qui est Dieu pour l'aimer avec passion? Nous ne pouvons pas connaître Dieu si nous ne savons pas qui nous sommes, parce que nous tombons dans ces pièges que nous avons vus, sème jamais Japhet, ou alors nous utilisons de la magie quand il faut. Mais je connais des chrétiens qui utilisent la magie dans l'église évangélique. C'est grave. C'est comme ça que vous avez beaucoup de désordre dans l'église. Bon, ils le font parce qu'on leur a appris comme ça. Ils ne savent même pas que c'est de la magie. Formule, paf. Ils attirent un homme, ils attirent ceci. Enfin bon, beaucoup de choses magiques. Juste des formules comme ça. Okay, la puissance de la personne pour faire cela. Mais connaître les Écritures, connaître la puissance de Christ, la rédemption, le plan de Dieu pour l'humanité qui est basé sur Christ, celui qui vit en moi et je suis en lui par l'identité qu'il me donne de le connaître. Et ensuite l'expérience, bien sûr, qui suit. Mais la foi n'est pas fondée sur l'expérience, elle est fondée sur Christ, mais elle me permet de vivre des choses puissantes dans la parole. Amen. Donc nous allons voir un peu plus. Donc nous allons voir plus loin dans ce modèle que j'ai montré, qui est un modèle de cœur, en fait. Ça se traduira par un cœur pour vous aider à vous rappeler que le modèle d'un chrétien équilibré, eh bien, est dans la connaissance de Dieu. Mon but est de le connaître, disait Paul. Et Paul était quelqu'un d'équilibré. Quelqu'un qui n'est pas tombé, même Pierre, il a repris Pierre. Pierre qui commençait à judaïser, vous voyez, les juifs, c'est un peu supérieur et tout ça, non. Il n'y a que Christ. Amen. Christ qui est au centre, qui doit être celui qui doit être focalisé dans notre foi et qui nous révèle toutes ces choses. Christ a donné son esprit, il a dit « Je vous donnerai mon esprit ». Lorsqu'il est parti la Pentecôte, l'Esprit est descendu. Tout vient de Christ et il nous révèle ces choses dans sa parole. Que le Seigneur soit béni et qu'il nous aide à nous attacher à Dieu, non pas pour ce qu'il fait pour nous, mais pour ce qu'il est. Amen. Et que nous puissions mieux le connaître. Seigneur, nous te prions afin que, Seigneur, ce but qui était le but premier de Paul puisse être notre but. C'est de poursuivre notre course pour mieux te connaître, pour ne pas te connaître en partie, ou à moitié, ou au tiers, mais Seigneur, vraiment te connaître pleinement. Et que nous puissions être équilibrés avec les autres aussi, être ouverts aux autres, être ouverts avec toutes les dénominations, être ouverts avec tous ceux qui te cherchent, Seigneur, de manière sincère, que nous puissions les aider, que nous soyons utiles entre tes mains, Seigneur. Pour cela, tu veux nous établir selon ta parole, Seigneur, selon les sources de connaissances qui sont les tiennes, Seigneur. Tu veux nous accorder cette grâce au nom de Jésus. Nous te remercions de ce que tu as appelé cette Église, en fait, à être ces personnes qui amènent des familles, à connaître qui elles sont et qui est Dieu pour l'aimer avec passion. Seigneur, merci pour cette grâce. Que toute la louange te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen.